Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 11 Charivar, 1400 du calendrier iranien, 2 septembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter d'abord notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Les États-Unis quittent 3 bases en Syrie après leur retrait humiliant d'Afghanistan et devraient quitter l'Irak aussi. L'invasion américaine de l'Afghanistan est la manifestation concrète de la violation des droits de l'homme, a déclaré le président iranien Ibrahim Raisi. La force de défense aérienne de l'armée iranienne dévoile 2 nouveaux systèmes. L'Iran et la Chine discutent de l'élargissement de leur coopération pétrolière. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'expérience de la présence américaine dans différents pays et partie du monde prouve que cette présence n'a jamais été créatrice de sécurité, mais au contraire a été préjudiciable à la sécurité, la stabilité et la paix, a déclaré le président Raisi lors d'une réunion du Conseil des ministres. Le président Raisi s'est référé aux récents événements en Afghanistan et a décrit ce qui se passe dans ce pays au cours des 2 dernières décennies, comme un signe clair de violation flagrante des droits de l'homme à l'époque contemporaine. Ibrahim Raisi a estimé que l'histoire de la présence militaire américaine dans d'autres pays du monde montre également que non seulement ils n'ont pas réussi à renforcer la sécurité, mais ont miné le calme et la stabilité qui y règnent. Le président iranien a noté que les Américains, qui devraient être responsables de leur triste bilan en matière des droits de l'homme vis-à-vis du public, ne font que chercher des prétextes pour ternir l'image des autres pays sur les droits de l'homme. 2 nouvelles réalisations des forces de défense aérienne de l'armée iranienne ont été dévoilées. Le radar 3D Alborz et le système de commandement et de contrôle des armes Borhan, à faible et à grande hauteur, sont 2 nouvelles réalisations des forces de défense aérienne de l'armée de la République islamique d'Iran qui ont été dévoilées mercredi. Le radar 3D Alborz a été produit dans le but d'intercepter et de détecter des cibles à longue portée avec une faible section efficace radar. La portée radar maximale de ce système est de 450 km et il est capable d'identifier des cibles à basse altitude. le radar Alborz est également capable de suivre 300 cibles simultanément. Après avoir reçu et analysé des informations de toutes les sources, le système de commandement et de contrôle des armes Borhan à faible et à grande hauteur les fournit au plus haut niveau de commandement pour prendre des décisions dans les plus brefs délais afin de mener à bien la mission et détruire la cible. Borhan, avec sa capacité de détection et de traitement efficace, permet d'engager, de détruire et de tromper des cibles aériennes. En plus de la capacité de détecter la cible en mode passif, le système Borhan a également la capacité d'émettre des commandes pour faire face aux perturbations électroniques. Le commandant de la force de défense aérienne de l'armée iranienne a souligné qu'en termes de production d'équipements de pointe, la défense aérienne de la République islamique d'Iran est un précurseur dans la région. Le ministre iranien du pétrole a rencontré le vice-président de la China National Petroleum et a discuté de l'élargissement de la coopération bilatérale. Jeudi, lors de sa première rencontre avec des sociétés étrangères, le ministre iranien du pétrole, Javad Oji, a rencontré le vice-président pour l'Asie occidentale de la compagnie chinoise. Au cours de la réunion, le développement de la coopération bilatérale a été examiné et les deux parties ont souligné l'expansion des relations bilatérales. La compagnie chinoise a déjà participé au développement du champ Azadegan au sud de la République islamique d'Iran et du champ pétrolier Azadegan Nord. La première phase de son plan de développement a été mise en œuvre en 2016. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'actuelle administration américaine allait dans le sens de la politique de son prédécesseur consistant à utiliser les sanctions contre Téhéran comme un levier de pression. Hossein Amir Abdollahian a tenu ses propos lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Le haut diplomate iranien a noté que la République islamique d'Iran ne cédera jamais à une telle pression. Le Drian, pour sa part, a appelé à davantage de discussions sur les questions d'intérêt commun entre les deux pays. Ces commentaires interviennent alors que les pourparlers visant à relancer l'accord nucléaire iranien de 2015 à Vienne semble être au point mort. L'Iran soutient qu'il reviendra au plein respect de l'accord une fois que les autres parties le feront et que toutes les sanctions auront été levées. La commission mixte du plan global d'action conjoint a tenu plusieurs réunions hors ligne à Vienne depuis avril pour discuter des perspectives d'un éventuel retour des États-Unis à l'accord et des mesures nécessaires pour garantir le respect total et efficace des termes de l'accord par tous les signataires. Les États-Unis auraient évacué trois de leurs bases militaires dans toute la Syrie peu de temps après leur retrait humiliant d'Afghanistan à la vietnamienne. Une source militaire bien informée a fait cette annonce mercredi à la chaîne de télévision iranienne Al Alam. La source a identifié l'une des bases en question comme l'avant-poste militaire américain le plus controversé en Syrie, Située près du champ pétrolifère Al-Omar, dans la province orientale de Deir ez-Zour. Il a nommé les autres comme deux bases près du district de Yamishli, dans la province de Hasaké, située à l'extrême nord-est de la Syrie. Les États-Unis et leurs alliés ont occupé des territoires en Syrie et en Irak voisins en 2014 sous prétexte de combattre le groupe terroriste takfiriste Daesh. L'ingérence militaire a cependant été étonnamment lente à affronter les terroristes, malgré la taille de la coalition qui avait en relais des dizaines de pays alliés de Washington. De nombreux rapports et responsables régionaux souligneraient quant à eux le rôle des États-Unis dans le transfert des éléments de Daesh dans toute la région et même dans le transport des équipements pour le groupe terroriste. En Syrie, en plus d'organiser une présence totalement illégale, les États-Unis se sont engagés dans le pillage du pétrole syrien, provoquant de forts avertissements de la part de Damas, qui se réserve le droit de défendre sa souveraineté et ses ressources. Pendant ce temps, Hadi Al-Amiri, secrétaire général de l'organisation irakienne Badr, a pris la parole lors d'un événement annonçant que les États-Unis et d'autres pays étrangers mettraient fin à leur présence militaire dans son pays d'ici la fin de l'année en cours. Nous mettons l'accent sur le calendrier du départ des forces étrangères d'Irak. À la fin de cette année, nous assisterons à la sortie des forces d'Irak, a-t-il déclaré. L'année dernière, le Parlement irakien a voté à une écrasante majorité en faveur de l'expulsion de toutes les forces étrangères après qu'une frappe de drone américain a assassiné deux hauts commandants antiterroristes iraniens et irakiens, le général Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes. Les deux commandants avaient joué des rôles cruciaux dans la défaite de Daesh fin 2017, au milieu de l'échec ou du refus constant de la coalition dirigée par les États-Unis de combattre de manière décisive les terroristes. Le pays, ses gardiens et ses bâtisseurs, c'est nous. L'armée, la police et les Hashd al-Shaabi sont les créateurs de la victoire en Irak, a déclaré Hadi al-Amiri. Il a également souligné la contribution de la République islamique d'Iran aux efforts antiterroristes de l'Irak, affirmant que les Iraniens ont aidé l'Irak dans la guerre contre le terrorisme. L'information concernant le départ des États-Unis des avant-postes basés en Syrie est arrivée seulement deux jours après que les États-Unis ont mis fin à leur occupation de l'Afghanistan de deux décennies en retirant le dernier soldat du territoire afghan. Le retrait est intervenu bien que le secrétaire d'État américain Antony Blinken ait affirmé que l'Amérique ne permettrait pas la répétition de Saïgon en Afghanistan. Washington a associé le retrait à la fin complète de sa présence diplomatique en Afghanistan, bien que les talibans se soient engagés à assurer la sécurité des missions diplomatiques et de leur personnel.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Après 20 ans d'occupation militaire, les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan. Les autorités politiques et militaires américaines ont annoncé en effet la fin de leur présence diplomatique et militaire en Afghanistan. Quant à la présence diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait état de cette annonce de la fin, en effet, de la mission diplomatique, de la présence diplomatique américaine en Afghanistan, et a annoncé que la représentation diplomatique américaine a été transférée, en effet, au Qatar. Quant à la présence militaire, selon le chef du CENTCOM, le général McKenzie, le dernier contingent américain, en effet, a quitté l'Afghanistan à bord des vols d'évacuation. Et pourtant, des centaines d'Américains, en effet, restent toujours en Afghanistan, ce qui mérite réflexion. Ceci étant dit, alors, plusieurs analystes, en effet, dans les milieux politiques et médiatiques, sont unanimes à affirmer que là, il s'agit d'une débandade totale, d'un échec, d'un fiasco total pour les forces d'occupation américaines. Et bien entendu, des questions aussi s'opposent quant à l'avenir de l'Afghanistan, ce vide laissé par les Américains, le rôle de la Turquie et surtout le rôle et la place stratégique de la République islamique d'Iran, de la Russie et de la Chine dans, en effet, ce pays après le retrait américain. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette débandade totale des Américains en Afghanistan. Alors, la gestion, en effet, de l'Afghanistan, la gestion politique et sécuritaire de l'Afghanistan, notamment Kaboul et l'aéroport de Kaboul, là où, justement, des spéculations se multiplient quant à un éventuel rôle sécuritaire et militaire de la Turquie, membre de l'OTAN pourtant, et bien entendu la place stratégique de la République islamique d'Iran dans l'avenir de l'Afghanistan. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Qui oserait parier qu'un ciel afghan totalement ou partiellement désaméricanisé laisserait l'axe de la résistance, la Russie et la Chine, indifférents? Peu après l'annonce du départ du dernier contingent US de l'aéroport de Kaboul sur fond d'images sensationnelles publiées par les médias atlantistes et mettant en scène un dernier djihadiste qui quitte la scène et les premiers talibans qui arrivent, et alors même d'ores et déjà les pétitions circulent au sein du Pentagone sur fond de quoi les généraux américains exigent la démission de Lyon Austin, histoire de lui faire endosser la responsabilité de l'échec et faire croire que l'Empire finissant avait d'autre choix que de déguerpir au bout de 20 ans de total enlisement. Le chef du CENTCOM, McKenzie, est apparu sur les écrans pour affirmer ceci. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan s'est achevé. Les derniers avions militaires américains ont quitté l'Afghanistan, marquant la fin de la mission américaine de 20 ans dans ce pays. 2461 soldats américains ont été tués à la suite de l'opération américaine en Afghanistan. Plus de 20 000 ont été blessés. Nous n'avons pas pu évacuer tous ceux que nous voulions évacuer. Il y a plusieurs centaines de citoyens américains en Afghanistan qui auraient souhaité rester dans le pays, a-t-il déclaré. Alors la question qu'on se pose est la suivante. S'agit-il d'agents largement trafiqués ces dernières semaines depuis la Syrie en Afghanistan à bord des hélicos de l'US Air Force et dont le plus grand exploit militaire aura été cette terrifiante tuerie anti-civile commise le 25 août à l'aéroport de Ahmed Karzai?
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir M. le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse. Et M. Pierre Cornu, analyste politique depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est Bernard Cornu, merci.
Ah, désolé, Bernard Cornu. Monsieur Cornu, après 20 ans d'occupation militaire américaine en Afghanistan, alors finalement, ce chapitre s'est fermé. Donc là, il s'agit selon de nombreux analystes d'un échec, d'un fiasco total, d'une débandade complète de la part des militaires américains. Et au point où, à l'intérieur même des États-Unis, des sénateurs républicains et même démocrates, en effet, appellent à la démission du président Biden pour avoir mal géré, en effet, le retrait américain d'Afghanistan. Quel premier regard portez-vous, quel premier constat tirez-vous, M. Cornu, de ce retrait américain qui, selon de nombreux analystes, je le rappelle encore une fois, s'agit d'une débandade totale?
Certes, c'est une débandade totale, mais elle a été négociée depuis longtemps par tous les pouvoirs américains, le pouvoir républicain de Trump, et ensuite ça a continué avec Biden et qui a mis en œuvre ce qui avait été décidé auparavant. Donc lors de négociations à Qatar avec des représentants des talibans. Que cette évacuation se soit passée en débandade, c'est surtout le fait, je pense, des faits médiatiques. Beaucoup de journalistes étaient là encore, et ces images, ces vidéos, c'est de toute une armée en retraite rapide, en évacuation rapide de ses propres ressortissants américains et aussi des gens qui ont collaboré avec elle pendant ces années d'occupation. C'est vrai que ces images-là, y compris de nuit, ne font pas grande publicité à l'armée américaine, mais je crois que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, cette guerre d'occupation s'est terminée par une défaite de la plus grande puissance américaine face à des groupes de militants résistants, certes fondamentalistes, certes même divisés entre eux, puisque certaines régions sont encore insoumises par rapport à ce pouvoir des talibans. Mais c'est plutôt la fin d'un impérialisme américain qui s'est, depuis la fin de l'URSS, qui s'est projeté au Moyen-Orient avec une grande base à Qatar, avec des installations militaires dans tous les pays autour de l'Afghanistan, enfin dans la plupart des pays autour de l'Afghanistan. Et je pense que ceci, c'est la fin d'une époque, je pense.
Merci infiniment pour ces précisions. Justement, nous allons revenir sur l'effondrement de l'Empire américain, dont l'exemple flagrant en ces temps, c'est l'Afghanistan, le retrait américain d'Afghanistan. Restez avec nous, Monsieur Cornu. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, Monsieur Colamandé. Bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à Monsieur Bernard Cornu.
Monsieur le professeur, Monsieur Cornu l'a rappelé, il s'agit de la fin d'une époque, d'une ère. La fin de cette guerre d'occupation américaine en Afghanistan. Alors, ces derniers jours, les autorités militaires et américaines ont affirmé que la mission américaine en Afghanistan était accomplie. Qu'est-ce qu'elles entendent par là? Est-ce que là, il s'agit justement de la mort de plus de 2 500 militaires américains, sans oublier que alors plus de 20 000 militaires américains ont été également blessés, des milliers, des dizaines de milliers de civils afghans. Alors, qu'est-ce qu'elles entendent par là de cette mission accomplie, Monsieur le professeur?
Ceci ne peut avoir qu'un seul sens. Ce n'est pas du tout une considération philosophique générale sur les événements qui datent déjà d'une vingtaine d'années, mais l'expression, disons, d'un accord ferme qu'il y a eu entre, qui était passé entre les Américains et ceux qui sont en place aujourd'hui, qui ne sont pas venus par une résistance aux Américains seulement, mais qui sont venus parce qu'ils ont été acceptés par les Américains. Je crois que ceci n'est pas du tout une manière, disons, audacieuse de voir les choses, ou une manière précipitée. Je crois qu'on ne peut qu'aboutir à l'idée qu'il y a eu un accord médité. Monsieur Cornu a bien dit au début de son intervention qu'il s'agissait d'une négociation. La négociation a été longue. Ce n'est pas du tout après un combat, après, disons, des pertes extraordinaires, que les Américains se seraient décidés à tout abandonner. Non, il s'agit là d'un mûrissement de situation qui a été d'ailleurs annoncé par Monsieur Trump. Monsieur Trump avait annoncé, vous savez, chacun le sait, le départ des marines, enfin de l'armée américaine. Alors, chacun, en Occident en tout cas, même M. Poutine l'a repris, dit que la philosophie d'une, j'emploie ce terme, la philosophie de l'occupation, de l'imposition d'une civilisation à une autre est une chose qui est impossible de dépasser. chacun fait de la philosophie de l'histoire, bien, pour dire qu'on n'impose pas un régime. C'est vrai, on ne peut pas imposer un régime. Mais ce n'est pas là la question. Il s'est agi quand même d'une très grande opération, opération militaire et financière. Il y a on dit qu'il y a eu 80 milliards de dollars qui ont été dépensés dans cette affaire. Et jusqu'à maintenant, je ne crois pas que quand on voit le nombre de la quantité de matériel que les Américains ont laissé en Afghanistan, ça a été publié ceci, on parle de 300 000 fusils d'assaut à peu près, hein, à peu près 8 000 camions, etc., des hélicoptères, des avions, bon, et bien d'autres matériels, disons, sophistiqués. Est-ce que ceci est vraisemblable? Non, ce n'est pas vraisemblable. Ceci est réel, mais ceci, à notre avis, est voulu. Ceci, disons, est prémédité. Les Américains ne sont pas partis au milieu de combats. Ceci se voit. Donc, que leur échec, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un premier échec, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu imposer certainement la politique qu'ils voulaient, comme on ne peut pas imposer à un peuple une politique que celui-ci refuse. Ça, c'est un premier point. Chacun est d'accord. Mais là où, disons, nous devons être méfiants, ou sceptiques, si vous voulez, c'est que cette négociation, car il y a eu une négociation, il y a eu une longue négociation, on ne peut pas du tout, effacer cette hypothèse. Elle aboutit à quoi? Elle aboutit à la présence de groupes dont on pourra toujours supposer, les accuser, les soupçonner de favoriser le terrorisme. C'est-à-dire que nous aurons là une occasion pour les Américains ou d'intervenir à nouveau, ce n'est pas du tout impossible, sous différentes formes, ou bien, de prendre prétexte de la présence de ces gens pour pouvoir exercer des pressions sur l'Iran, pour pouvoir peut-être donner à la Turquie un rôle qu'elle n'avait pas jusqu'à présent dans cette région. Ceci, à notre avis, n'est pas du tout, je dirais, une défaite politique des Américains. Je veux dire que les Américains, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas été pris de court. Et ils ont simplement tiré des leçons de la situation. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas indéfiniment se maintenir. Et donc, ils ont adopté une autre stratégie qu'ils cachent au peuple. C'est une stratégie hypocrite. Et je dois dire que, personnellement, mais c'est tout à fait une opinion tout à fait subjective, je trouve qu'il y a une responsabilité historique de la part d'autres grands pays de la région, je pense à la Russie et à la Chine. Il ne s'agit pas de les accuser, mais eux-mêmes sont au courant de cela, puisque de ces négociations, puisque vous savez que le gouvernement chinois a souhaité un succès aux talibans, etc. Mais que sont ces mêmes talibans? Est-ce que c'est vraiment l'émanation d'un mouvement populaire en Afghanistan? Non. Je reprends l'idée que les talibans ont été introduits à 20 ans par M. Brzezinski. Ils ont été formés, les premiers talibans en tout cas, au Pakistan. Et donc, il y avait une arrière-pensée derrière M. Brzezinski et le régime de Carter à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était de faire de l'Afghanistan un prétexte d'intervention. Un prétexte, par exemple, à ces fameux attentats des tours jumelles, par exemple, aux États-Unis. Est-ce que la nouvelle situation, je pose la question, je terminerai là-dessus, est-ce que cette nouvelle situation ne va pas créer des motifs d'assigner au terrorisme telle ou telle opération qui sera une opération sous faux drapeau? Voilà la question que je pose. Je ne prétends pas donner, bien sûr, une réponse définitive. Mais ce sont des questions que, en toute honnêteté, disons, un observateur ne peut pas se poser. Je crois qu'en réalité, ce départ des Américains annonce certainement des stratégies qui ne sont pas en faveur des peuples, y compris en premier, bien sûr, du peuple afghan, ni même de tous les peuples de la région.
Merci infiniment, Monsieur le Professeur, pour ces éclairages. Restez avec nous. Monsieur Cornu, alors, quelles seront les retombées de cette stratégie hypocrite des Américains, comme disait Monsieur le Professeur d'Ortiguière, sur la situation militaire, sécuritaire et politique en Afghanistan? N'oublions pas que, comme l'a rappelé Monsieur d'Ortiguière, alors plus de 85 milliards de dollars d'armes et de matériel militaire américain sont tombés entre les mains des talibans.
D'abord, je voudrais être... Monsieur d'Ortiguière a bien évoqué l'action de Monsieur Brzezinski sous Carter. Ce n'est pas il y a 20 ans, c'est il y a 42 ans. Hein, en 1979, Le 3 juillet, Carter a signé une directive présidentielle secrète pour introduire des activistes moudjahidines ou djihadistes, on dit maintenant, qui étaient présents surtout en Arabie saoudite et avec coopération et financement saoudien, introduire donc des djihadistes pour lutter contre le gouvernement pro-communiste afghan de l'époque. Et donc ceci était dès l'été 79 et donc avant l'invasion soviétique, et cela a contribué évidemment à provoquer l'invasion soviétique et l'enlisement de l'armée rouge dans ce pays montagneux où toute occupation génère une résistance, comme le rappelait d'ailleurs le général de Gaulle il y a bien longtemps. Ceci est fondamental. Quant aux dépenses américaines, je crois qu'elles sont constituées bien sûr d'armements qui ne sont jamais rapatriés par les Américains depuis leur théâtre d'opération, mais aussi elles sont constituées d'énormes primes pour tous les militaires, les officiers qui vont dans ces pays-là. Et ceci, c'est un facteur très humain, mais qui contribue beaucoup à la durée de ces guerres américaines dans ses projections à l'étranger. Ceci a été raconté dans le cas de l'occupation, la très longue occupation de l'Irak, après l'invasion de l'Irak, qui a été d'ailleurs décidée en même temps que l'invasion de l'Afghanistan. Ceci a été révélé d'ailleurs par les comptes rendus de réunions avec Rumsfeld au lendemain ou même le soir même des attentats du 11 septembre 2001. Il a été décidé à l'époque d'envahir les deux pays, dans le cadre l'Afghanistan et l'Irak, dans le cadre de ce qui était prétendu comme une guerre à la terreur, alors qu'en fait le terrorisme a été introduit et financé conjointement par les Américains et par l'Arabie saoudite dès l'été 79 pour lutter à l'époque de la guerre froide contre l'influence communiste, l'influence soviétique dans ces pays d'Asie centrale. Je crois que c'est très important de rappeler cette antériorité de l'introduction du terrorisme financé par l'Occident, en l'occurrence par l'Arabie saoudite et par les Américains, enfin les services secrets américains. C'est ça qui a généré le terrorisme et qui a pendant très longtemps contribué à le faire développer dans cette région et ensuite avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient et en Occident.
Merci encore, M. Cornu. Une toute dernière question à M. le professeur Dortiguier. M. le professeur, revenons au rôle important, stratégique et primordial des voisins de l'Afghanistan et des pays, en effet, de l'Asie centrale pour à la fois la gestion de cette crise, mais aussi pour faire face à ce piège, à ces complots, en effet, des États-Unis. Alors, quel rôle pourront jouer l'Iran, la Russie et la Chine, justement, face à cette stratégie, je retiens encore une fois justement cette expression, cette stratégie hypocrite des Américains en Afghanistan.
Oui, en effet. La seule position, à notre avis, rationnelle, utile, disons, de la Russie, de la Chine et de l'Iran, serait de bien distinguer, de bien mettre en évidence ce qu'on appelle ces groupes terroristes, d'une part, et les séparer, bien sûr, des aspirations, naturellement, des autres peuples, des peuples musulmans, l'Asie centrale, disons, qui sont dans une période, je dirais, de décolonisation par rapport à la situation soviétique ancienne. Et je crois que c'est là, disons, qu'il y a une responsabilité, je dirais, de la Russie en premier et de la Chine. C'est-à-dire de prendre cette situation, non pas comme une occasion de réprimer ou de soupçonner n'importe quel mouvement, disons, de légitime d'autonomie ou de responsabilité, en disant qu'il s'agit là d'une manœuvre terroriste ou qu'il s'agit... Non, il s'agit bien de distinguer les deux et non pas de les confondre. Je crois que c'est la sagesse qui l'emportera, je l'espère en tout cas, en Chine et en Russie. Nous le voyons d'après la dernière intervention de M. Poutine touchant son jugement sur le retrait des Américains d'Afghanistan, mais ce dont nous sommes malheureusement, je dirais certains, ce que nous ne pouvons que craindre, mais véritablement, c'est que cette politique américaine ne soit l'occasion de faire apparaître, soi-disant à l'opinion publique ici, des foyers de terrorisme, et que donc ils ne justifieront, voyez-vous, leur intervention dans la partie ouest, c'est-à-dire en Syrie, et à mon avis, c'est cela. Ils ont allumé, à notre avis, un foyer à l'est, tout à fait à l'est de l'Iran, mais pour en fait intervenir, disons, plus à l'aise dans la partie ouest. Car ils verront toujours des foyers de terrorisme qui diront être combattus par les talibans, mais germés à l'occasion de cette prise de pouvoir, voyez-vous. Ils feront apparaître l'instabilité de l'Afghanistan comme motif, disons, d'intervention ou de continuation d'intervention essentiellement en Syrie, et cela, vous savez, au bénéfice, bien sûr, de l'entité sioniste, évidemment. Il faut quand même toujours voir tous les acteurs du drame.
Et un dernier mot, monsieur le professeur d'Ortiguien, sur le rôle de la Turquie, justement, dans l'avenir de l'Afghanistan.
C'est-à-dire, je n'ose pas en parler parce que... Le rôle n'était le plus important. La Turquie est à l'orée de deux voix, vous voyez, c'est-à-dire elle a une voix juste ou une voix qui serait moins juste. La voix juste serait évidemment de lutter contre, d'unir derrière elle, bien sûr, l'ensemble des peuples turciques. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est inévitable, qui est dans le courant de l'histoire, qui était déjà vrai en 1914, donc il est encore plus aujourd'hui. Et c'est en ce sens que la Turquie, d'ailleurs, est combattue beaucoup par de nombreux milieux occidentaux, même bien qu'elle soit dans l'OTAN et autres. Maintenant, il y a une deuxième partie, évidemment, il y a une deuxième voie que la Turquie ne devrait pas suivre, c'est celle de se plier, justement, sous le prétexte de lutte antiterroriste, de se plier, disons, à des interventions... en Syrie et autres, qui seraient, à notre avis, nuisibles, bien sûr, à une solution pacifique. Je crois que la Turquie est entre deux voies, et il n'est pas sûr que la Turquie suive les directives que les Américains entendent, ou les occidentaux entendent. Je crois que cette situation ne peut que favoriser en Turquie même, disons, ceux qui ont une tradition, disons, patriotique, enfin une tradition, disons, de patriotique au sens large, d'unir tous les peuples, disons, d'ascendance, d'avoir une attitude patriotique, disons. Et je crois que là, est-ce que c'est la position qui est assignée à M. Erdogan, est-ce que c'est la position assignée à son parti, je crois que la Turquie va, en tout cas, sortira avec un rôle plus important qu'avant, disons, dans le traitement de ces questions.
Et que merci.
Là, justement, que les Américains aussi ont certainement visé, ils admettent la Turquie dans l'OTAN à cause de l'ancienne menace soviétique, c'est exact. Et vous savez, les véritables alliés des Anglo-Américains, ce sont effectivement surtout, disons, les pays comme l'Arabie Saoudite et au Pakistan, je dirais au Pakistan, ceux qui suivent la politique des frères musulmans, qui sont eux-mêmes qui ont assassiné Mme Buteau, etc. Donc, voyez-vous, nous sommes toujours dans la même guerre, voyez-vous.
Merci, monsieur.
Terminer là-dessus. Cette même guerre qui a commencé en 1914, et bien sûr, ce sont les mêmes forces qui sont à l'œuvre, avec des masques différents, mais une volonté de dominer l'Orient.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, monsieur Bernard Cornu, analyste politique depuis Vaucluse, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants taquiristes. L'attentat qui a visé l'aéroport de Kaboul jeudi dernier, faisant près de 200 blessés et une centaine de morts, dont 13 militaires américains, a été revendiqué par Daesh. Le groupe terroriste montre ainsi sa volonté de reprendre le contrôle en Afghanistan, quitte à s'opposer aux talibans. Jeudi dernier, l'attentat qui a visé l'aéroport de Kaboul a fait près de 200 blessés et une centaine de morts, dont 13 militaires américains. Il a ensuite été revendiqué par Daesh. À première vue, cela pourrait surprendre puisque l'Afghanistan vient de tomber aux mains d'un autre groupe djihadiste, les talibans. En réalité, ces derniers et Daesh se livrent une compétition féroce pour le contrôle du pays et cet attentat n'en est que la dernière conséquence. Car reprendre la main en Afghanistan serait un énorme succès pour Daesh. Il faut se souvenir que c'est en Afghanistan qu'Al-Qaïda est né dans les années 80, après l'invasion soviétique. C'est aussi là-bas qu'Oussama Ben Laden a conçu et organisé les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, d'ailleurs sous la protection des talibans. Dans l'imaginaire des terroristes radicaux, cette région garde donc un pouvoir d'attraction extrêmement puissant. Dès que Daesh, en 2014, a proclamé son califat en Irak, il a immédiatement exigé des talibans qu'ils lui prêtent allégeance, ce que les talibans afghans ont refusé. Les frictions se sont donc transformées en guerre ouverte entre d'un côté les talibans soutenus autrefois par Al-Qaïda et de l'autre les partisans de Daesh qui ont multiplié les attentats dans tout l'Afghanistan, y compris dans les zones contrôlées par les talibans. Et cette logique de surenchère permanente a évidemment été attisée par le retrait américain. Aujourd'hui, il y a des cellules dormantes de Daesh à Kaboul, indique Michel Duclos, diplomate et conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Leur présence fait donc craindre de nouveaux attentats. On l'a vu, ce sont des opérations suicides qui ne demandent pas de très grands moyens. D'autant qu'il est probable qu'elles disposent de complicité au sein des talibans qui sont un mouvement pluriel, a conclu Michel Duclos. Le groupe takfiriste Daesh, considéré par les Américains comme une menace à l'encontre des milliers d'Afghans qui attendent toujours impatiemment à l'aéroport de Kaboul de fuir vers l'Occident, entretient une haine tenace à l'encontre des talibans, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Le président américain Joe Biden avait défendu mardi dernier sa décision de maintenir au 31 août la date limite pour le départ des forces étrangères d'Afghanistan et la fin des évacuations, évoquant un risque grave et croissant d'attaque de Daesh à l'aéroport. Londres avait de son côté évoqué une menace terroriste très sérieuse et imminente. Peu après la proclamation par Daesh d'un califat en Irak et en Syrie en 2014, d'anciens membres des talibans pakistanais ont proclamé leur allégeance au chef de groupe, Abu Bakr al-Baghdadi. Ils ont ensuite été rejoints par des Afghans déçus par les talibans et début 2015, Daesh a officiellement reconnu la création de sa province du Khorasan. Le Khorasan est l'ancien nom donné à une région qui englobait des parties de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Iran et de l'Asie centrale. l'État islamique du Khorasan, EIK, a établi sa tête de pont en 2015 dans le district montagneux d'Achin, dans la province orientale de Nangarhar, la seule où il parviendra à s'implanter durablement avec celle voisine de Kunar. Partout ailleurs, le groupe s'est heurté aux talibans, même s'il a réussi à former des cellules dormantes autre part en Afghanistan, notamment dans la capitale, et au Pakistan, selon l'Organisation des Nations Unies. Les dernières évaluations de ces effectifs varient d'un minimum de 500 à quelques milliers de daéchistes, selon un rapport du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, paru en juillet. L'EIK a revendiqué certaines des attaques les plus meurtrières commises ces dernières années en Afghanistan et au Pakistan. Il a massacré des civils dans les mosquées, des hôpitaux et dans d'autres lieux publics. Le groupe a surtout ciblé des musulmans qu'il considère comme hérétiques, en particulier les chiites. En août 2019, il a ainsi revendiqué un attentat contre des chiites à un mariage à Kaboul, dans lequel 91 personnes ont été tuées. Il a aussi été fortement soupçonné d'avoir été derrière une attaque en mai 2020 contre une maternité d'un quartier majoritairement chiite de la capitale de l'Afghanistan qui a coûté la vie à 25 personnes, dont 16 mères et des nouveau-nés. Même s'il s'agit de deux groupes sunnites radicaux, ils ont des divergences en termes de théologie et de stratégie. Ils sont aussi en concurrence pour incarner le djihad. Signe de la forte inimitié qui les oppose, Daesh a qualifié les talibans d'apostats dans des communiqués. L'EIK s'est heurté à la répression à laquelle ont procédé les talibans à l'égard de leurs dissidents et s'est révélé incapable d'étendre son territoire, contrairement à ce qu'il avait réussi à faire en Irak et en Syrie. En 2019, l'armée gouvernementale afghane, après des opérations communes avec les États-Unis, avait annoncé qu'il avait été vaincu dans la province de Nangarhar. Selon des évaluations des États-Unis et de l'Organisation des Nations Unies, l'EIK n'a depuis plus largement opéré qu'au travers de ses cellules dormantes dans les villes pour des attaques fortement médiatisées. L'organisation terroriste s'était montrée très critique à l'égard de l'accord de retrait des troupes américaines et étrangères d'Afghanistan conclu en février 2020 à Doha entre Washington et les talibans, accusant ceux-ci d'avoir renié la cause djihadiste. Après leur entrée dans Kaboul et leur prise du pouvoir le 15 août, les talibans ont reçu les félicitations de plusieurs groupes djihadistes, mais pas de Daesh. Mais celui-ci pourrait profiter de l'effondrement de l'État afghan. Mr. Q, un spécialiste occidental de ce groupe, qui publie sous ce pseudonyme ses recherches sur Twitter, a ainsi relevé 216 attaques de l'EIK entre le 1er janvier et le 11 août contre 34 l'an passé sur la même période. L'effondrement de l'armée afghane est une étrange réminiscence de ce que nous avons vu en Afghanistan en 2011. Je crains que la même situation ne se reproduise en Afghanistan avec simultanément le développement de Daesh et la résurrection d'Al-Qaïda, a approuvé Colin Clark, le directeur de recherche du Soufan Center, un groupe de réflexion new-yorkais sur la géopolitique. Les responsables américains disent que l'aéroport est sous la menace directe de l'OIKA. Les deux explosions survenues jeudi dernier ont été revendiquées par Daesh. Ces derniers jours, des avions de transport militaire ont quitté Kaboul en lâchant les leurs, notamment destinés à détourner des missiles. La zone est aussi exposée à la fois aux tirs de mortiers et aux attentats suicides, estiment des experts. Plusieurs analystes relèvent que l'activité de l'OIKA s'est brutalement arrêtée depuis deux semaines. Or, les filiales de Daesh ont tendance à se faire discrètes lorsqu'elles entrent en mode survie ou quand elles préparent une opération d'ampleur. Hypothèse validée par Mr. Q. Ce silence intrigue, mais peut se comprendre, a-t-il expliqué, en confirmant l'inactivité récente de Daesh. Le groupe peut analyser la situation après la prise du pouvoir par les talibans, ou bien préparer une potentielle grosse attaque pour montrer au monde entier l'incapacité des nouveaux dirigeants afghans à sécuriser le territoire.
Thank you.